On prie, on vous demande de continuer à prier. Notre sœur Sacha aussi qui est opérée pour une hanche. Alors, la convalescence va bien, Jean? Oui, hein, ça s'est bien passé. Donc, si vous avez d'autres sujets de prière, vous connaissez d'autres personnes qui sont malades et qui ont besoin de prière pour les malades, eh bien, ça nous fera plaisir de pouvoir les rajouter sur notre liste le jeudi soir. Jonas. Il est écrit au chapitre 1, verset 17, que l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et certains se demandent si c'était vraiment un poisson, si c'était une baleine ou si c'était un monstre marin. À vrai dire, on ne le sait pas exactement. Le mot hébreu est ketosis, qui signifie simplement un monstre marin. Donc, on ne parle pas de cachelot, on ne parle pas de baleine. Le mot hébreu simplement signifie un monstre marin. Maintenant, peu importe à quoi ressemblait ce monstre marin, nous devons retenir qu'il a été envoyé par Dieu pour avaler Jonas et que celui-ci demeurait dans le ventre de ce poisson pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Est-ce que cela est possible? Il est bon de se rappeler qu'avec Dieu, tout est possible. Il y a plusieurs années, on pense que c'est seulement arrivé à Jonas, mais c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire que des gens ont été avalés par des poissons. Et je pourrais vous raconter l'histoire qui est arrivée à un dénommé James Barclay en 1891. C'est l'histoire où ce marin, en fait, avait harponné. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas tous ces immenses navires usines qui débitent le poisson avant, c'est vraiment des usines, quoi. Ça arrive au bord, ça arrive au quai, ils sont déjà dans des caisses congelées, et finalement, c'est vraiment des usines, des bateaux. Mais à l'époque, on appelait ça des mariniers, il y avait des bateaux, et les mariniers embarquaient dans des barques, et avec des harpons, eh bien, quand on arrivait dans un banc de cachelots, de baleines, eh bien, il y avait des barques qui étaient autour, et on harponnait les baleines. Ceux qui ont vu Moby Dick, ça vous donne un petit peu une idée. Mais aussi, ça arrivait que la baleine attrapait les hommes aussi avec sa queue, une puissante queue. Et il y a plusieurs récits dans l'histoire où des baleines ont avalé des hommes et qui sont demeurés en vie dans leur ventre. Et comme je venais de vous dire, en 1891, un énorme cachelot a été harponné près des îles Malouines. Et un marin qui s'appelait James Barclay, qui se trouvait dans une barque, est tombé à l'eau alors qu'il tentait d'harponner le cachelot. Lorsque celle-ci donnait un coup de queue contre la barque. Et tous les hommes d'équipage crurent à ce moment-là que l'homme s'était noyé. Et quelques heures plus tard, on a continué la pêche, et quelques heures plus tard, le cachelot fut capturé et amarré le long du navire, parce qu'on n'avait pas les capacités de monter ces énormes poissons sur les navires. On les débitait le long du navire. Eh bien, quelques heures plus tard, le cachelot fut capturé et amarré le long du navire, où l'équipage armé de haches et de pelles s'affairait à récupérer la graisse de l'animal. Ils travaillaient toute une journée et une partie de la nuit, et le lendemain matin, avec un palan, eh bien, on a hissé l'estomac du poisson sur le pont. Et les marins furent intrigués par quelque chose à l'intérieur qui donnait des signes spasmodiques de vie. Et ils y trouvèrent le marin disparu, plié en deux et inconscient. On l'allongea sur le pont et un bon saut d'eau de mer le ranima rapidement. Et pendant 2 semaines, il demeura complètement fou furieux. Et à la fin de la 3e semaine, il avait entièrement récupéré de son choc et il reprit le travail. Et si vous voulez vérifier ces dires-là, ça ne vient pas d'un scientifique chrétien ni d'un chrétien, mais c'est des journaux du monde qui ont rapporté ces événements-là. Il y en a plusieurs, mais un matin, je ne suis pas ici pour vous raconter les histoires de tous ceux qui se sont fait manger, avaler par des poissons, si vous parlez de la parole. Mais vous tapez sur Internet « homme avalé par un poisson » et vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-uns qui apparaissent. Et en tout cas, moi, j'aimerais pas ça déjà passer une nuit dans le ventre d'un poisson. Je comprends que ce gars-là était pendant quelques jours complètement cinglé, échappé à la mort de cette façon-là. Mais ça nous permet de voir que l'histoire de Jonas, ça tient la route, même s'il y a une chanson qui dit... vous connaissez la chanson « Jonas dans une baleine » ici, non? Non? Ah, OK, ça doit être québécois, alors. OK, donc on utilise le mot « baleine », mais la Bible ne parle jamais d'une baleine, elle parle d'un poisson. Et comme je vous ai dit, le texte biblique nous parle d'un monstre marin. Mais par contre, elle nous dit que c'était un grand poisson, et il est possible que Dieu ait créé ce monstre marin uniquement aussi pour Jonas. Dieu, à partir de rien, eh bien, de dire qu'un monstre marin soit créé, c'est comme ça avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de rien pour créer quelque chose. Chose certaine, ce fut tout simplement un miracle. Et nous allons voir ce matin que ce miracle est une image de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Eh bien, il y a un grand message missionnaire dans le livre de Jonas. Cependant, si vous cherchez uniquement à savoir comment un homme peut demeurer en vie pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, vous allez passer à côté de l'enseignement que Dieu veut nous transmettre à travers ce miracle. L'enseignement que Dieu veut nous transmettre, ce n'est pas de nous prouver que quelqu'un peut vivre dans un poisson, mais il y a un enseignement important qui fait référence à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ à travers tous les livres de Jonas. Et pour notre enseignement personnel, c'est ce que le Seigneur veut s'attarder à nous enseigner ce matin. Je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, Seigneur, pour cette parole, cette sainte parole qui nous a été donnée par un Dieu trois fois saint. Seigneur, qu'elle puisse non seulement, Seigneur, nous faire progresser dans notre foi, mais qu'elle puisse aussi nous sanctifier afin que tu puisses parfaire le plan, Seigneur, à laquelle tu t'es attaché, Seigneur, à chacun de nous, c'est-à-dire nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Seigneur, que ta parole puisse nous fortifier, Seigneur, et que toi, là-haut, tu puisses te réjouir de voir que ton peuple, Seigneur, veut mettre en pratique cette parole. Et c'est en Jésus-Christ que nous te demandons. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, il y a 4 choses que j'aimerais regarder avec vous ce matin. La première chose, c'est qu'on a besoin de tenir compte en tant que chrétien de l'appel missionnaire. Je vous invite à lire avec moi les versets 1, 2, 3. Et en quoi consiste cet appel missionnaire? Eh bien, c'est ce que les 3 premiers versets vont commencer à nous amener à réfléchir. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppe, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Surprenant, n'est-ce pas, que Jonas ait pris une direction opposée à celle que Dieu lui avait donnée. Dieu lui dit d'aller à l'est, et lui s'en va à l'ouest. Et il a payé le prix du transport, il s'est embarqué pour partir avec les passagers pour Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas était un missionnaire récalcitrant. Et il y a peut-être des missionnaires qui sont comme lui dans cette salle ce matin. Des missionnaires qui sont récalcitrants à un appel, à un message que Dieu leur a donné d'annoncer. Même si à première vue, il semble que Dieu soit en colère contre Ninive et qu'il s'apprête à juger les habitants de Ninive, nous allons voir que Dieu a un cœur rempli d'amour et de pitié pour les habitants de cette ville, comme Dieu a encore un cœur aujourd'hui rempli de compassion et de pitié pour ce monde qui meurt sans Dieu. Chers amis, Dieu annonce toujours un jugement à venir pour amener les gens à la repentance, et je crois que si nous entendions parler un peu plus souvent de l'enfer dans nos sermons, nous aurions beaucoup plus de gens qui se détourneraient de leurs péchés pour se tourner vers Dieu. Je pense qu'il n'y a rien de cruel à parler. Pardon. Je pense qu'il n'y a rien de cruel de parler de l'enfer et du jugement. Je pense au contraire qu'il est cruel de ne pas en parler lorsqu'on sait où les gens vont passer l'éternité. Dieu dit à Jonas, tu vas aller prêcher un message de jugement à ces gens. Et comme nous allons le voir à travers ce récit, le cœur de Dieu bat pour sauver le monde. Amen. Le cœur de Dieu bat pour sauver le monde. Dieu cherche plus à pardonner, à sauver qu'à juger le monde. Qu'est-ce que Dieu dit à nous, chrétiens de l'Église baptiste de Dlin, ce matin? La même chose qu'il a dit dans Marc chapitre 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu veut que tous soient sauvés, nous dit la parole. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, dit l'apôtre Pierre. Et affirmer que nous sommes des chrétiens, c'est affirmer que nous sommes aussi des missionnaires. Chaque chrétien est missionnaire là où Dieu l'a placé. » Ce n'est pas de partir en Afrique, nécessairement partir en Asie. Je dois vous dire qu'il y a autant de païens en Belgique qu'il y en a en Asie, par pourcentage de population. L'Europe a été christianisée, mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années que l'Europe n'a pas été évangélisée. Il y a toute une différence entre christianisée et évangélisée. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années, plusieurs générations que l'Europe n'a pas été évangélisée. Et là, c'est le retour du balancier. Ce sont des frères africains qui viennent ici et qui deviennent des pasteurs d'église pour venir nous évangéliser parce que nous, on ne répond pas à l'appel missionnaire. Dieu nous demande de partir dans une direction et on ne peut pas juger Jonas parce que souvent, on s'en va dans l'autre direction. On fait comme Jonas. On prend notre sac de bagages et puis on part en vacances en pensant que Dieu ne nous a pas vus, en pensant que ça ne dérange pas Dieu. Mais quand on appartient au Seigneur, quand on a quelqu'un de né de nouveau, eh bien, Dieu va venir nous chatouiller, Dieu va venir nous déranger. Parce que Dieu a fait de chaque enfant de Dieu né de nouveau un missionnaire là où il l'a placé. Ce n'est pas d'assommer les gens, c'est simplement d'annoncer un message qui peut bouleverser la vie des gens, comme il a bouleversé ma vie, comme il a bouleversé la vie de plusieurs ici dans cette Église. Dieu veut que la terre soit remplie. C'est Habacuc, pardon, chapitre 2, verset 14. Dieu veut que la terre soit remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Jonas ne pouvait pas faire ce qu'il voulait de sa vie, comme moi je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie si je me dis chrétien. Et on a besoin, on en a parlé, je pense, dans une étude biblique, on a besoin en tant que chrétien de ramener cette culture chrétienne qu'on a perdue. On a besoin de revenir à cela. Dieu, à partir du moment où je prends une décision pour le Seigneur, et c'est pour ça que l'Évangile, ça ne doit pas être quelque chose de dilué. Les gens doivent savoir où ils mettent les pieds quand ils acceptent l'Évangile. À partir du moment où j'accepte l'Évangile, je ne peux plus faire ce que je veux de ma vie. Je dois m'appliquer à faire ce que Dieu veut faire de ma vie. Ça, c'est le chrétien né nouveau. Il a besoin de saisir ça. Dieu fait un missionnaire de lui. Dieu, c'est un missionnaire qu'il veut faire de lui. Amen. Amen. Je suis si heureux d'avoir assez eu de bon sens pour obéir à la volonté de Dieu parce que je ne serais pas dans cette Église aujourd'hui. Il était plus facile pour moi de partir pour le Québec il y a 15 ans que de répondre à cet appel que Dieu avait en réserve pour moi dans cette communauté. Et je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de faire la volonté de Dieu et ne pas fuir loin de Dieu lorsqu'il nous appelle à participer à son œuvre. Sinon, il y a deux conséquences qui surgissent à la désobéissance de quelqu'un, le chrétien, qui est appelé à être missionnaire là où Dieu l'a appelé. J'aimerais vous partager ces deux choses, ces deux conséquences, parce qu'on les retrouve dans le livre de Jonas ce matin. La première conséquence, c'est que notre désobéissance à l'appel du Seigneur va avoir des répercussions chez les autres. Versets 4 et 5. Jonas était serein. Son bateau était parti à temps. Ses bagages étaient à bord. Il n'avait pas à s'inquiéter. Il se disait sûrement, j'ai réglé toutes mes affaires avant de partir de Tarsis. Je vais pouvoir vivre la vie que je veux, loin de ce monde. Mais il ne perdait rien pour attendre, car Dieu va faire lever une énorme tempête alors que Jonas était descendu au fond de ce bateau, nous dit le texte, pour se coucher et s'endormir profondément. Regardez les versets 4 à 5. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur. Chacun implora son propre Dieu à grands cris. Qu'est-ce qu'on constate ici, frères et sœurs? Lorsque Jonas refuse d'obéir à Dieu, des gens vont subir les conséquences et vont souffrir. Ces marins n'avaient pas à subir la tempête. Ces marins n'avaient pas à souffrir à cause du refus de Jonas. Je pense à ce serviteur de Dieu qui a eu un écart de conduite et le prix qu'il a dû payer pour son péché. Non seulement s'il lui en a payé un grand prix, mais je pense aux conséquences que sa famille et que son Église a dû supporter pour sa désobéissance. Il en est de même pour Jonas ici. Que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit une servante de Dieu, un père, une mère ou quiconque d'autre qui décide de ne pas obéir à Dieu, non seulement il en subira les conséquences, mais également son entourage, frères et sœurs. Ces marins qui se trouvaient à bord de ce navire couraient un grave danger à cause de ce missionnaire qui ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Deuxième conséquence, notre désobéissance aura des répercussions dans notre propre vie, non seulement dans la vie des autres, mais aussi dans notre propre vie. Versets 12 à 17, dans le premier chapitre de Jonas. Non seulement les gens autour de Jonas subissaient de graves conséquences suite à sa désobéissance, mais Jonas lui-même allait en payer le prix. Il allait souffrir terriblement parce qu'il avait fui loin du Seigneur. Il aurait comme prison le ventre d'un poisson et il passerait quelques jours couché sur un matelas de graisse parce qu'il avait choisi de fuir loin du Seigneur. Voici l'appel missionnaire que Dieu adresse à Jonas. Jonas, tu vas annoncer la parole que je t'ai adressée de prononcer. Nous devons annoncer, frères et sœurs, le message missionnaire. Si on n'annonce pas le message missionnaire, non seulement ça a des répercussions chez les autres, non seulement ça a des répercussions dans nos vies, mais ça a des répercussions dans notre propre famille. Comment pouvons-nous croire, comment pouvons-nous faire croire à nos enfants que le message de l'Évangile est le seul message si on se ferme la bouche? Nos enfants, ce ne sont pas des imbéciles. Nos enfants voient notre comportement à la maison, ils connaissent nos priorités. Ils savent quel est le sujet de nos discussions dans la maison. Quel est le sujet de nos échanges dans la maison. Les frères et sœurs, on ne leur parle jamais, si on ne met pas notre vêtement de missionnaire pour évangéliser nos propres enfants. Ça a des répercussions incroyables dans leur vie. On est en train simplement de leur dire qu'on ne croit pas vraiment ce qu'on dit être. Connaissez-vous le message missionnaire dans le livre de Jonas? Il parle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. On va lire les versets 11 à 17. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Ils découvrirent que la source de leur malheur, frères et sœurs, c'était Jonas, qui était à bord du bateau, et que c'était à cause de lui qu'ils avaient eu cette énorme tempête. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme, mais ils ne réussirent pas, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils appelèrent, c'est extraordinaire, hein? Alors ils appelèrent le Seigneur au secours. C'est extraordinaire. Ils ont d'abord prié chacun leur Dieu, nous dit le texte. Et là, le texte nous dit, eh bien, ils appelèrent le Seigneur au secours. « Ah, Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Et puis, le texte nous dit, « Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la tempête cessa de faire rage. » Alors, ils furent remplis d'une grande crainte à l'égard du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice. Ils lui firent des vœux, ou si vous voulez, des promesses solennelles. L'Éternel fit venir un grand poisson pour adoucir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est la parole de Dieu. Savez-vous que tout ceci, tout cela, nous révèle le contenu du message missionnaire? Je le répète, connaissez-vous ce message, frères et sœurs? Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité des morts, il est à la droite de Dieu. Je vous invite maintenant à tourner dans Matthieu, chapitre 12, verset 41. Matthieu 12, verset 41. Corrigez tout de suite. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. La semaine passée, Jésus a dit, il y a quelqu'un ici de plus grand que Salomon. Jésus dit ici ce matin, il y a quelqu'un de plus grand que Jonas. Jonas est mort symboliquement dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours, il est revenu à la vie, c'est-à-dire qu'il est sorti du corps de ce poisson vivant. Mais Jonas est mort aujourd'hui. Jésus a été crucifié, il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Christ est beaucoup plus grand que Jonas. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Et voici, il y a plus que Jonas. Et il y a plus que Salomon. Ce que Jésus est en train de dire ici est d'une importance capitale, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même Jésus, le Fils de Dieu, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce passage, je le répète, nous parle de sa mort, de son ensevelissement, et de la résurrection du Seigneur Jésus. La Bible entière, frères et sœurs, est un message de l'Évangile. Si vous lisez le livre d'Anaïm, vous y trouverez le message de l'Évangile. Si vous lisez le livre d'Habacuc, vous allez trouver le message de l'Évangile. Si vous lisez le livre de Jonas, vous y trouverez le message de l'Évangile. Jésus est partout, partout dans les Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse. La première prophétie qui annonce la venue de Jésus, c'est dans Genèse, après le péché d'Adam et Ève. Je ne sais pas si Adam a compris cette prophétie, mais en tout cas, c'est la première prophétie où on identifie le Messie. Christ est partout dans les Écritures. Quel est le message de Jonas? Quel est le message missionnaire? C'est le message qui parle que Jésus est mort sur la croix à notre place. Jonas est une image, un type du Seigneur Jésus. Jonas est mort afin que les autres puissent vivre. Ne perdez pas de vue ici que Jonas est avalé par ce grand monstre marin qui représente la tombe et qu'il y est demeuré pendant 3 jours et 3 nuits. C'est une image qui nous rappelle, c'est une image forte qui nous rappelle que Christ a pris notre place, qu'il est ressuscité corporellement 3 jours après sa mort. Frères et sœurs, c'est important qu'on saisisse ça. Ce n'est pas un fantôme qui est monté au ciel quand Christ est monté. Il est monté avec son propre corps. C'est pas le 100% Dieu qui est monté. C'est le 100% Dieu, le 100%, mais il est monté au ciel avec son corps. Et il siège à la droite de Dieu dans son corps glorifié. C'est pas qu'il a réintégré le sein du Père. Il est assis à la droite du Père. Il n'est pas assis dans le Père. C'est important de saisir ça. À l'enlèvement de l'Église, vous allez avoir un corps transformé. Vous ne serez pas des anges. Vous allez monter avec votre corps, si cette génération, dans cette génération que le Seigneur revient. Vous allez monter au ciel dans votre corps glorifié. C'est important de saisir ces choses-là. Christ est assis à la droite de Dieu dans son corps glorifié. Il a dit, quand il a rencontré ses disciples, un fantôme ne peut pas manger. Je ne suis pas un fantôme. Donnez-moi du pain, donnez-moi du poisson. Il a mangé avec eux. Il était dans son corps glorifié. Et vous et moi, frères et sœurs, nous faisons partie de la raison qui a poussé Jésus à mourir sur cette croix. Avant qu'il le jette, avant que les marins jettent Jonas par-dessus bord, ils avaient jeté leur marchandise. Ils se disaient, nous n'avons pas besoin de le jeter par-dessus bord. Nous allons juste alléger le bateau. Quand vous regardez le texte ici. Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui font la même chose que les marins ont fait à l'époque de Jonas. Qui se disent, j'ai pas besoin de Jésus, je veux juste passer par-dessus bord mes jurons. Je veux juste passer par-dessus bord mes péchés. Je veux juste passer par-dessus bord mon alcoolisme, ma jalousie et mes mensonges. Vous ne pouvez pas alléger le bateau parce que vous êtes de naissance et par nature des pécheurs. Je suis par naissance, par nature, un pécheur. Il n'y a aucun moyen pour vous de vous débarrasser de ces choses en dehors de Jésus. C'est ce que la parole nous dit. Les marins ont essayé de se débarrasser de certaines choses, mais ils ont vu que ça n'avait absolument rien changé. Le fait d'alléger le bateau. Et ça ne change rien pour nous d'alléger notre vie. De se débarrasser d'un petit péché par-ci, d'un petit péché par-là. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de nous donner un nouveau cœur. Il ne veut pas nous alléger, il veut nous transformer. Parce qu'il veut nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Et cette mer agitée, elle représente ici le jugement de Dieu. Alléger le bateau n'y changeait rien, mais lorsque Jonas fut jeté hors du bateau, lorsqu'ils le sacrifièrent pour qu'eux-mêmes soient sauvés, alors la tempête cessa immédiatement. Et c'est la même chose dans la vie des gens, frères et sœurs. Les gens vivent sans Christ, ils vivent une tempête à l'intérieur d'eux-mêmes, une tempête qui ne cesse de les bourrasser de tous côtés. Et pour calmer cette tempête, on prend des médicaments, on prend de l'alcool, on prend de la drogue, on se lance dans tout et dans n'importe quoi. Mais le seul qui peut calmer cette tempête et même la faire disparaître, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas là pour apaiser, il est là pour nous délivrer. C'est le seul qui puisse le faire. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va aller chercher les solutions du monde. 1 milliard d'euros aux États-Unis, juste en tranquillisant par année. 1 milliard d'euros. Vous imaginez si on prenait cet argent-là pour la mission? 1 milliard d'euros. Les Belges sont des champions avec la France de consommateurs de médicaments de toutes sortes pour essayer d'oublier leurs problèmes. Et on a la pilule miracle, c'est Jésus-Christ, qui ne fait pas juste apaiser, qui délivre, frères et sœurs. Amen. Vous y croyez à ça, frères et sœurs? Alors, vous êtes appelés à être des missionnaires, pas juste des chrétiens. Les chrétiens se contentent de venir le dimanche, s'asseoir dans une église, prendre un message, partir et dire simplement, ça, c'est un beau message. Mais ce beau message, est-ce qu'il change votre vie, ce beau message que vous entendez le dimanche matin? Alors, s'il ne change pas votre vie, ce n'est pas un beau message. Vous avez entendu, comme Jésus dit aux pharisiens, mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas besoin de rêver de qu'un jour Dieu vous appelle en Afrique. Autour de vous, vos voisins d'à côté, de gauche et de droite, vous êtes appelés à être leurs missionnaires. Les inviter à prendre un repas, leur partager et leur demander ce qu'ils font dans leur vie. Laissez-les parler. Après, vous allez gagner le droit de pouvoir parler. Ils vont vous demander, vous, ce que vous faites dans votre vie. Vous leur parlez quels sont leurs hobbies dans leur vie. Ils vont vous demander, c'est quoi ton hobby dans ta vie? Mais moi, c'est l'Église. Et je vais te dire pourquoi je vais à l'Église. Et là, vous leur parlez, vous les amenez à Jésus-Christ. Amen. On est des missionnaires, frères et sœurs. Attendons pas que les États-Unis nous envoient des missionnaires. Attendons pas que les Anglais nous envoient des missionnaires. On n'est pas des mendiants, quoi. On n'est pas des mendiants en Belgique de dire, oh, Seigneur, adieu aux Américains qui nous envoient des missionnaires. Dis, mets dans le cœur des Anglais qui nous envoient des missionnaires. Non. Hey, vous avez les capacités en Jésus-Christ d'être des missionnaires aussi efficaces et performants que les Américains et que les missionnaires anglais. Amen. Amen. En jetant Jonas par-dessus bord, il y a plus ce qui a été accompli en un instant que toutes les tentatives que ces marins ont faites pour alléger leur bateau. Jésus nous a sauvés non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Titre, chapitre 3, verset 5, parce que Dieu a eu pitié de nous. Et je sais que vous êtes heureux de savoir cela, frères et sœurs, que Dieu a eu pitié de vous et que cette pitié, elle se manifeste à la croix. Non seulement nous voyons Christ qui est mort à notre place dans le livre de Jonas, mais nous voyons également sa résurrection dans Jonas, chapitre 2, verset 10. Il est écrit, « L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Et voilà Jonas qui apparaît à nouveau vivant, et ça, c'est clairement un miracle. Jacques, ce matin, est-ce que tu crois cela? Oui, j'y crois. Pourquoi je crois cela? Parce que je crois en Dieu. Je n'ai aucune difficulté à croire au miracle. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez au miracle ce matin? Levez votre main, ceux qui croient au miracle. Est-ce que vous croyez que Dieu veut faire des miracles à travers vous? Et que le plus beau miracle, c'est de proclamer ce que l'Évangile, les changements que l'Évangile a apportés dans votre vie à travers la personne de Jésus-Christ. Arrêtons d'apprendre des méthodes d'évangélisation. Ce que les gens veulent voir et entendre, c'est les changements que Christ a opérés dans votre vie. Si Christ n'a rien fait dans votre vie, ça veut dire que vous êtes égal à la personne à qui vous appelez, à qui vous parlez. Mes frères et sœurs, la rencontre de Jésus-Christ, c'est marquant dans la vie d'un homme. C'est marquant dans la vie d'une femme. Ça change toutes nos priorités. Frères et sœurs, quand on vit dans le royaume du monde, du diable, il y a une façon de vivre. Mais il est impossible, si on est né de nouveau, de continuer à vivre de la même façon quand on passe dans le royaume des Lumières. C'est impossible. C'est impossible. Si ce n'est pas fait, on doit revoir finalement le pas de foi qu'on a fait. Si on continue à vivre comme avant et on dit qu'on a accepté Jésus, on a un problème. Ce n'est pas possible. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Est-ce que le miracle de la nouvelle naissance, frères et sœurs, vous amène, vous pousse à vivre comme un citoyen du royaume des cieux? C'est ça qui est important pour nous. Troisième chose dont nous avons besoin de nous rappeler, que le message missionnaire parle de la grâce de Dieu. Ça, c'est la partie la plus intéressante de ce message matin. Le message missionnaire parle de la grâce de Dieu, chapitre 3. Chapitre 3, prenez-le par cœur, ce verset, chapitre 3, verset 1. Il va vous encourager, il va vous fortifier. Chapitre 3, verset 1. Chers amis, le miracle dans cette histoire, ce n'est pas que Jonas, ni le monstre marin, ou peu importe ce que c'était, le grand miracle dans cette histoire, c'est celui de la grâce de Dieu. C'est celui de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, la grâce de Dieu est tellement abondante. Pensez à la grâce que Dieu a accordée à Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Apprenez-le par cœur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Vous auriez pu penser que Dieu aurait dit, « Jonas a refusé de parler pour moi, je vais me trouver quelqu'un d'autre. » Non! Parce que Dieu est le Dieu de la deuxième chance, frères et sœurs. Et il va s'adresser une seconde fois à Jonas. Et quand Jonas dira non une deuxième fois, il va s'adresser encore à Jonas une seconde fois. Dieu, c'est le Dieu de la seconde fois. Mais combien de fois que vous confessez le même péché? Combien de fois dans ma vie j'ai confessé le même péché? Dieu est le Dieu de la seconde chance, frères et sœurs. Je te donne encore une chance de me prouver que tu t'es vraiment repenti. Ça fait 10 fois, Dieu dit, je te donne encore une seconde chance de me montrer que tu t'es repenti. Dieu est le Dieu de la seconde chance, ça c'est encourageant. Si vous êtes abattu après avoir fait quoi que ce soit, vous êtes complètement déprimé, c'est le diable qui est derrière ça, c'est pas Dieu. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Amen. Amen. C'est important. Il y en a quelques-uns parmi vous qui avez 50, 60 et même 70 ans. Et que vous vous dites peut-être, lorsque j'étais jeune, Dieu m'a appelé à exercer un ministère. Et je n'ai pas répondu à cet appel. Ou encore, Dieu m'avait dit de faire ceci ou de faire cela, et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas obéi. Permettez-moi de vous dire ceci. Et si c'est votre cas ce matin. Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Et pour plusieurs personnes, le verset 1 du chapitre 3 ici de Jonas demeure leur verset favori. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Si vous lisez la Bible, vous allez découvrir la doctrine de la seconde chance dans tous les livres de la Bible. Elle met en évidence le miracle de la grâce de Dieu. Mais on a besoin de se repentir. Pour goûter à la grâce de Dieu, on a besoin de se repentir. Dieu n'est pas un Dieu rancunier, il ne s'arrête pas à ce que vous avez fait, même si vous avez cherché à le fuir dans le passé. Même si vous vous dites, je n'ai pas fait la volonté de Dieu, il n'est pas trop tard pour vous, parce que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Pensez à Jérémie qui se trouvait dans la maison du potier, ou au moment où le potier travaillait sur son tour. Si le vase qu'il façonnait, était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile, entre les mains du potier, eh bien, il en refaisait un autre, comme il le jugeait bon. C'est le Dieu de la deuxième chance, frères et sœurs. C'est pas bon ça, OK, on va en faire un autre. Je t'ai donné un enseignement, ça n'a pas marché, reviens ici, je vais te travailler autrement. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'engagement, Romains chapitre 8, verset 29, de vous amener, de m'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et on ne peut pas servir. On ne peut pas servir le Seigneur dans son royaume si d'abord cette œuvre de rassembler à Jésus-Christ n'a pas commencé dans nos vies. Je l'ai dit, je pense, la semaine dernière, servir le Seigneur quand on vient tout de suite à Dieu, à Christ, sans avoir passé par ce changement en nous, on va servir pour nos propres œuvres. On va crier, on a beau crier aux gens que c'est pour la gloire de Dieu, mais on est content quand les gens disent, « Hey, toi, tu fais un bon travail. Hey, toi, là, t'es compétent. Non. D'abord, ressembler à Jésus-Christ, après ça, on est qualifié pour le servir. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, hein? Mais ça, c'est le travail que Dieu fait après qu'on soit passé par le chemin de la croix. Amen. C'est ce que la Bible appelle le chemin de la sanctification. Nous lisons dans Actes chapitre 15 qu'il y avait un certain Jean surnommé Marc qui avait été mis à part pour partir en mission. Et qui a raté son appel à un point tel que lors d'un voyage missionnaire, Paul n'a pas voulu le prendre avec lui. C'est son oncle Barnabas qui l'a pris avec lui. Et plus tard, Paul dira à Timothée, concernant Marc, « Amène Marc avec toi, car il pourra me rendre service dans ma tâche. » Frères et sœurs, Dieu a donné une seconde chance à Marc. Et c'est parce que Dieu lui a donné une deuxième chance, et ça me réjouit, que nous avons l'évangile de Marc aujourd'hui. Si Dieu avait dit à travers Paul, t'es disqualifié, t'es pas digne, on n'aurait pas l'évangile de Marc aujourd'hui. Et apparemment, quand vous Vous faites des études théologiques, on vous dit que l'évangile de Matthieu et de Luc a été pris, tiré à partir de Marc. On a pris ça à partir de Marc. Heureusement, je rends grâce à Dieu qu'on ait l'évangile de Marc aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu a donné une seconde chance à Marc. Je pense à Simon-Pierre, qui a juré de ne pas connaître le Seigneur Jésus, qui l'a renié à 3 reprises. Combien de gens auraient dit, c'est terminé pour Pierre, il a renié Dieu à 3 reprises. C'est un hypocrite, c'est un incapable, c'est un menteur. Il a même dit qu'il était prêt à aller en prison et mourir pour Jésus. Quel hypocrite, ce Pierre! Chers amis, Dieu a donné une deuxième chance à Pierre. Et Pierre est devenu cet apôtre qui a prêché un puissant message lors du jour de la Pentecôte. Frères et sœurs, Dieu vous accorde une seconde chance. Dieu m'a accordé plusieurs secondes chances. Et c'est la même chose pour vous ce matin. Peut-être des gens dans cette salle qui ont déjà confessé le Seigneur il y a des années, et vous ne vivez rien avec lui. Confessez votre péché, demandez pardon au Seigneur. Dieu veut vous accorder une seconde chance, un nouveau départ. C'est toujours un nouveau départ que Dieu veut nous donner. Et Dieu ne se lasse pas de nous donner des nouveaux départs. Parce que le cœur de Dieu, c'est qu'on arrive là où il veut qu'on arrive, c'est dans le ciel, il est en train de nous préparer une place. Amen. Je suis tellement reconnaissant que Dieu m'ait donné autant de deuxième chance dans ma vie. Mes amis, il est le Dieu de la deuxième chance. Quel verset? La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Gloire à Dieu pour cette seconde fois. Parce que cette seconde fois-là, Jonas est allé à Ninive. Rends grâce à Dieu qu'il ait non seulement donné une deuxième chance à Jonas, mais qu'il ait donné une deuxième chance aux habitants de Ninive. Ninive était mûre pour un jugement, et le monde est mûr pour un jugement. Mais je crois que Dieu vise beaucoup plus à pardonner qu'à juger. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 18, versets 7 à 8. Parfois, à propos d'une nation ou d'un royaume, je parle de déraciner, de renverser et de détruire cette nation. Mais si cette nation renonce au mal, si cette nation se repent, si cette nation renonce au mal qui a provoqué ma menace, regardez ce que le Seigneur dit, alors je change d'avis au sujet du malheur que je lui destinais. Et Dieu a changé d'avis à propos de Ninive parce que Ninive s'est repentie. Amen. Hey, frères et sœurs, c'est vrai qu'on a un Dieu qui est grand et redoutable. Mais on a un Dieu qui a le cœur bas pour ceux qui sont perdus. Et on a un Dieu qui a son cœur bas pour ses enfants, pour qu'ils puissent prendre ce ministère de la mission et pouvoir aller proclamer l'Évangile aux gens avec qui ils sont en contact. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, verset 41. On l'a lu tantôt. « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus ici que Jonas. Dieu a pardonné à Ninive. Et pourtant, il faut connaître l'histoire de Ninive. Ninive, c'était une des villes les plus perverses et les plus corrompues sur toute la surface de la terre à son époque. En fait, c'était là le problème de Jonas. Il détestait les Ninivites, comme certains détestent les combattants d'Al-Qaïda aujourd'hui, parce qu'ils croient que ce sont des gens totalement irrécupérables. Et à vue humaine, avec tout ce qui se passait dans Ninive, vous auriez pu dire que ce sont des gens qui sont irrécupérables. Lorsque l'armée de Ninive s'approchait d'une petite ville pour l'attaquer, les historiens nous disent que les gens avaient tellement peur d'eux, de ce qu'ils leur feraient, qu'il y en a qui se suicidaient avant que les Ninivites rentrent dans la ville. C'était des gens dont la méchanceté était sans limite. Jonas se souvenait que les Ninivites avaient causé énormément de problèmes à Israël dans le passé. Voilà pourquoi il ne voulait pas leur prêcher le message du Seigneur. Il ne voulait pas leur donner l'opportunité de se repentir de leurs péchés. Mais Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Et en examinant l'histoire, il y a peu de réveils, frères et sœurs, comme celui de Ninive. Surtout lorsque vous pensez que tous les habitants se sont repentis, c'est ce que le texte nous dit, ils se sont tournés vers Dieu alors qu'ils pratiquaient ouvertement le péché. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'être des missionnaires, pas qu'on aille gagner des âmes pour lui. Le Seigneur veut qu'on soit des missionnaires pour qu'il puisse faire une œuvre à travers nous et amener les gens à la repentance, amener les gens au salut. Je vais vous donner juste, je ne sais pas si vous vous rappelez qui a fondé la ville de Ninive. C'est notre c'est Nimrod lui-même, un type d'antichrist, un des premiers types d'antichrist dans la parole de Dieu qui avait fondé cette ville. Et pourtant, cette ville va connaître un énorme réveil, un puissant réveil. C'est ce que le chapitre 3 de Jonas nous rappelle ici, nous donne. Jonas a prêché que dans 40 jours, Ninive serait détruite, et pourtant Dieu n'a pas détruit cette ville. Est-ce que Jonas était un faux prophète? Non. Mais une chose est sûre, si les habitants ne s'étaient pas repentis, Ninive aurait été détruite, comme Jonas l'avait prédit. Les Ninivites se sont repentis, et Dieu manifeste toujours sa miséricorde envers ceux qui se repentent. Mais il ne manquera jamais de juger ceux qui refusent de se repentir. Ça fait partie de la justice de Dieu. Je suis tellement reconnaissant que Dieu soit aussi miséricordieux et aussi gracieux. Et s'il y a quelqu'un dans cette salle ce matin qui pense qu'il est trop tard pour être sauvé, ou qui pense qu'il a fait trop de mal, ou que Dieu en a fini avec lui, je tiens à lui dire qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard et que ce n'est jamais fini. Et cela parce que Dieu est un Dieu gracieux, est un Dieu de la seconde chance. Amen. Amen. Si vous êtes chrétien et que vous êtes tombé, il y a un Dieu qui accorde toujours une deuxième chance à tous ceux qui sont tombés. Si vous ne vous êtes jamais converti et que vous pensez qu'il est trop tard pour être sauvé, rappelez-vous que Dieu a sauvé Ninive et qu'il vous sauvera si vous vous repentez de vos péchés ce matin. Dernier point terminant. Nous avons besoin de comprendre l'intention missionnaire, chapitre 4. Et c'est ce que chapitre 4 nous dit ici. Qu'est-ce qui doit motiver quelqu'un vers la mission? Qu'est-ce qui doit motiver quelqu'un à annoncer l'Évangile? Lisons les versets 1 à 3. « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. » Ah bien, c'est intéressant ça. Hein? « Qu'est-ce qui déplaisait tant à Jonas? » Ce grand réveil, frères et sœurs, que les gens se tournent vers Dieu, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Lorsque vous prêchez à des gens, vous vous attendez à avoir des résultats, mais pas Jonas. Jonas, il était mécontent, lui. Il était très en colère, non seulement mécontent, mais très en colère. Au point d'implorer Dieu, de dire, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant la ville de Tarsis, en quittant Tarsis. C'est des gens qui ne sont pas dignes d'être sauvés. Seigneur, mais tu ne te souviens pas de tous les péchés qu'ils ont faits? Seigneur, ce sont des grands pécheurs, pas moi, mais ce sont des grands pécheurs, eux. Est-ce que ça ne nous arrive pas de nous empêcher de n'annoncer l'Évangile parce qu'on pense que les gens, ce sont des plus grands pécheurs que nous? Est-ce que ça ne nous arrive pas d'annoncer l'Évangile parce qu'on pense que nous, on est sans péché et qu'eux ne sont pas dignes de recevoir l'Évangile? Est-ce que ça ne nous arrive pas d'avoir un petit peu l'attitude de Jonas de temps en temps? Alors, on va maintenant comprendre pourquoi il avait fui le Seigneur. Regardez ce qu'il dit, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant. » Et c'est fort, hein? C'est un prophète de Dieu, là. « Car je savais que tu es un Dieu compatissant, mais pas moi. Que tu es miséricordieux, mais pas moi. Lent à la colère, mais pas moi. Riche en bonté, mais pas moi. Et qui te repent du mal. » Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Seigneur, je préfère que tu me fasses mourir, que tu me fasses rentrer dans la ville pour évangéliser ces gens-là. C'est fort, hein? Ça, c'est le prophète de Dieu, là. C'est sa prière. Il dit, je suis tellement malade que je veux mourir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bénir des pécheurs. Le problème ici, c'est que Dieu aimait les Ninivites. Jonas ne les aimait pas. Pourquoi? Comme je l'ai déjà mentionné, ils étaient tellement méchants. Mais Dieu va commencer à travailler dans le cœur de Jonas. Il va lui enseigner une grande vérité qu'il veut aussi nous enseigner ce matin. Et frères et sœurs, première question avant d'arriver à la fin. Il est possible qu'on ne soit pas des missionnaires parce qu'on n'aime pas les pécheurs comme Dieu les aime. Il est possible que ce soit notre manque d'amour envers les perdus qui nous empêche de proclamer le message de l'Évangile. On n'a pas besoin d'être des évangélistes, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, d'être des missionnaires. Lui, il va faire le reste. Frères et sœurs, quel est notre amour pour les perdus? On a nos enfants sur nos listes de prières. Mais où est le monde sur notre liste de prières? Où est la ville de Liège sur notre liste de prières? Où est le pays de la Belgique sur notre liste de prières? Dieu aime la ville de Liège. Dieu aime la Belgique. Dieu veut sauver la ville de Liège. Et Dieu veut sauver la ville, le pays de la Belgique. Regardez les versets 5 à 6 ce matin. Jonas sortit de la ville et s'arrêta à l'est de Ninive. Là, il se fit une cabane à l'abri de laquelle il s'assit. Il attendait de voir ce qui allait se passer dans la ville. Le Seigneur Dieu fit pousser une plante de ricin, plus haute que Jonas, pour lui donner de l'ombre et pour lui ôter sa mauvaise humeur. On a un Dieu qui est bon, hein? Jonas en éprouva une grande joie. Lisons maintenant les versets 7 et 8. Mais le lendemain, au lever du jour, Dieu envoya un ver. Un ver s'attaquait à la plante et elle sécha. Puis quand le soleil parut, Dieu fit souffler de l'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas, qu'il faillit s'évanouir. Il demanda la mort en disant, « Je préfère la vie à la mort à la vie. » Voilà Jonas assis sous la plante au-dessus de lui, en colère parce que la plante a été piquée par un ver et que le soleil lui a tapé sur la tête. Regardez les versets 9 à 11 maintenant. Dieu dit à Jonas, « As-tu raison d'être en colère, Jonas, contre cette plante, au sujet de cette plante? » Jonas répondit, « Oui, j'ai de bonnes raisons d'être en colère, au point de désirer la mort même. » Alors le Seigneur reprit, « Écoute, cette plante, Jonas, elle ne t'a coûté rien. Hein? Elle ne t'a pas demandé de faire des efforts. Hein? C'est pas toi qui l'as fait pousser. Hein? Elle a grandi en une nuit et elle a disparu la nuit suivante. Pourtant, Jonas, tu en as pitié. Hein? Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de la ville de Ninive, Jonas, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite, c'est-à-dire qui ne savent même pas finalement maintenant ce qui est bien, ce qui est mal, ainsi qu'un grand nombre d'animaux. Jonas, il y a un petit ver qui a mangé ta plante et tu demandes la mort. Jonas, il y a 120 000 personnes qui s'en vont en enfer. Tu n'as aucune pitié pour ces 120 000-là. Qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire ici? Il est en train de lui dire ceci. Jonas, tes priorités, elles ne sont pas à la bonne place. Tu es attaché à cet endroit où tu vis. Tu es attaché à ton confort alors qu'ici, il y a une ville qui est destinée à recevoir mon jugement. Et toi, tu es en colère, Jonas. Jonas, tu es en colère parce que j'ai pitié de ces gens. Dieu ne lui reproche pas de ne pas avoir pitié de ces gens. Jonas est en colère parce que moi, le Dieu, le Créateur, le Sauveur, j'ai pitié de ces gens. Chers amis, permettez-moi de vous poser quelques questions en terminant. Y a-t-il une plante qui fait ombrage dans votre vie, au point où vous avez oublié l'amour que Dieu a pour les perdus? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de lâcher prise et de vous réjouir pour annoncer l'Évangile? Qu'est-ce qui occupe le plus vos pensées, les choses de Dieu ou les choses du monde? Y a-t-il quelque chose que vous ne seriez pas prêt à abandonner si Dieu vous demandait de laisser tomber pour lui? Voici ce pitoyable prophète, plus intéressé à son confort qu'au confort que lui apporte une plante plutôt qu'aux âmes perdues. Vous savez ce qui ne va pas avec nous, les chrétiens du 21e siècle? Nous sommes comme Jonas, frères et sœurs. Nous sommes plus intéressés à notre confort aux âmes perdues. Nous sommes plus intéressés à nous assurer que personne ne viendra nous enlever ce que nous avons que de nous préoccuper de savoir si les gens s'en vont au ciel ou s'en vont en enfer. Nous avons besoin d'avoir la compassion de Dieu pour le monde dans lequel nous vivons. Lorsque je préparais ce message, j'entendais la parole du Seigneur qui me disait, « Jacques, tu n'aimes pas les perdus comme tu le devrais. » Et je me suis rappelé que mon cœur doit brûler pour tous ces gens qui meurent sans Christ. Et si c'est votre cas ce matin, je vous invite à faire de même. Faites en sorte que le mandat de la mission soit une réalité dans votre vie parce que je crois que Dieu veut encore amener des gens à la repentance au 21e siècle. Je crois dans ce message missionnaire qui dit que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, comme ce fut le cas pour Jonas, qui sortit vivant de la bouche de ce poisson. Et je crois que pour être motivé à annoncer ce message, mon cœur doit battre comme le cœur de Dieu bat pour les perdus. Un cœur plein de compassion et de grâce pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous invite à incliner vos têtes en terminant, nous allons prier. Pendant que les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés, si vous êtes chrétien, voulez-vous faire cette prière ce matin? Seigneur Jésus, donne-moi un fardeau pour les perdus. Aide-moi à les voir comme toi tu les vois. Fais en sorte que mon cœur bat, pour eux, comme ton cœur bat pour eux. S'il y a quoi que ce soit que vous aimez plus que Dieu ce matin, êtes-vous prêt à l'abandonner? Pendant que les cœurs, les têtes sont penchées, que les yeux sont fermés. Je ne suis pas en train de dire ici que Dieu ne veut pas que vous ayez de belles choses, mais Dieu ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse vous aveugler au point de ne pas avoir de compassion pour ce monde qui souffre. Et si vous n'êtes pas sauvé ce matin, permettez-moi de vous dire que Jésus veut vous sauver. Le même Dieu qui a sauvé les Ninivites, c'est le même Dieu qui veut vous sauver, et ce, peu importe ce que vous avez fait. Il n'y a personne de trop méchant qui ne peut être sauvé, et personne de trop bon qui n'a pas besoin d'être sauvé pour Dieu. Que le Seigneur puisse avoir parlé à tous les cœurs ici présents ce matin et vous accorder la compassion qu'il a pour les perdus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Mesdames, vous l'avez, on va chanter la